Le journal est présenté par Audrey Dumain.
Bonjour à tous. Les cérémonies demain au Rwanda, 25 ans après le génocide des Tutsis. Emmanuel Macron ne s'y rendra pas, mais le député Hervé Berville, orphelin Tutsi adopté en France, fait le voyage après avoir rencontré l'association de rescapés du génocide Ibuka. Troisième jour de combat dans l'ouest de l'Afghanistan. Les talibans ont lancé une offensive hier. Notre correspondante Sonia Rassali est sur place. Dans ce journal également, manifestation en Allemagne contre la hausse des loyers. Des solutions sont proposé à Berlin. En France, nouvelle journée de mobilisation de gilets jaunes. Des gilets jaunes réunis également pour une grande assemblée à Saint-Nazaire. Ils décident de la suite du mouvement. Enfin, nous reviendrons sur cette polémique qui éclate à France Info. Des femmes qui travaillaient pour la chaîne auraient été harcelées, agressées sexuellement. Une information révélée par le journal Libération, 2 mois après l'affaire de la Ligue du LOL. Le Rwanda s'apprête à commémorer demain l'un des plus grands massacres du XXe siècle. Le génocide qui a fait plus de 800 000 morts dans le pays en l'espace de 3 mois, c'était au printemps 1994. Des victimes principalement issues de la minorité Tutsi. 25 ans plus tard, des zones d'ombre persistent, notamment sur le rôle militaire de la France. La France qui sera présente demain lors des cérémonies au Rwanda. Le député Hervé Berville, orphelin Tutsi adopté en France, fait le déplacement. Il a entendu avant son départ, les demandes de l'association de soutien aux victimes et rescapés du génocide.
J'étais hier aux côtés du président de la République avec l'association Ibuka, qui est une association de rescapés. Et ce qu'il nous demande, c'est à la fois de faire ce travail de mémoire, de faire en sorte que la place du génocide des Tutsis soit pleinement reconnue dans la mémoire collective française. Et puis ensuite, c'est travailler pour justement établir les faits et pour que on puisse être en capacité en France de bien comprendre l'enchaînement à la fois entre 90 et 94, mais aussi avant, puisque si vous regardez, si vous lisez un certain nombre de choses, notamment le roman de Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil, on voit bien que ça a été une politique de discrimination, d'exclusion des Tutsis qui a commencé dès les années 60. Et c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de réfugiés, des dizaines de milliers de réfugiés qui sont partis parce que c'était une politique d'État, de discrimination et de racisme contre les Tutsis.
Des cérémonies au Rwanda auxquelles n'assistera pas Emmanuel Macron, qui a annoncé la création d'un comité pour faire la lumière sur le rôle de la France dans cette tragédie. Dans cette tragédie, 25 ans après le génocide contre les Tutsis, la difficile relation entre la France et le Rwanda, dossier à retrouver en une de notre site franceculture.fr. En Libye, la situation ne finit pas d'inquiéter la communauté internationale et les pays du G7 réunis à Dinard. Ils demandent au maréchal Haftar d'arrêter toute offensive militaire vers Tripoli. Des combats au sud de la capitale libyenne avec le gouvernement de Fayez al-Sarraj font craindre un nouvel embrasement. L'homme fort de l'Est a ordonné jeudi à ses forces de marcher sur Tripoli où siège le gouvernement du Premier ministre reconnu par la communauté internationale. Situation explosive également en Afghanistan où des centaines de talibans ont lancé une offensive dans la province de Bagdi hier. Depuis jeudi, des combats opposent les combattants talibans aux forces gouvernementales afghanes dans l'ouest de l'Afghanistan. Des dizaines de soldats ont été tués. Les combats entrent aujourd'hui dans leur 3e jour. Les précisions de Sonia Rassali, correspondante à RFI à Kaboul.
L'aviation afghane intervient depuis hier sur le district de Balamulrab, bombardant les positions tenues par les talibans. Au sol, près d'un demi-millier de soldats afghans combattent. L'assaut des talibans a commencé jeudi soir sur ce district situé à 2 heures de la capitale provinciale Qalaynaw. Il s'agit de la 2e attaque sur cette zone en l'espace de 2 mois. En mars dernier, les talibans avaient réussi à en garder le contrôle pendant 2 semaines avant que les forces armées ne parviennent à les chasser. Le début du printemps marque en Afghanistan l'intensification des combats, notamment dans les provinces où les dispositifs de sécurité sont moins conséquents que dans les grandes villes du pays. Malgré les discussions régulières qui ont lieu entre les États-Unis et les représentants talibans depuis 5 mois pour ouvrir la voie à un accord de paix, les combats sur le terrain continuent. Le scrutin présidentiel repoussé au 28 septembre est pour l'instant maintenu. Nous nous attaquerons au bureau de vote et aux représentants de ce gouvernement, affirmait il y a encore quelques semaines un porte-parole porte-parole taliban, la paix est loin d'être conclue, d'autant que les insurgés refusent toujours de rencontrer les autorités afghanes dans le cadre des discussions de paix.
Sonia Rassali, correspondante RFI pour France Culture. Et ce matin, deux explosions ont fait 3 morts et 19 blessés à Jalalabad, cette fois dans l'est du pays. Parmi les victimes, 2 enfants et 8 membres des forces de sécurité. Aucune organisation n'a revendiqué pour le moment ces explosions. En Allemagne, le ras-le-bol contre la hausse des prix des loyers. Plusieurs rassemblements sont prévus dans la journée, notamment à Berlin ce midi. Les manifestants dénoncent les expulsions locatives. Ils réclament des solutions pour limiter les loyers. À Berlin, une solution se profile justement grâce à la tenue probable d'un référendum local. Une solution jugée radicale par certains. Remunicipaliser ces logements acquis par le privé. Reportage de notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
Elles s'appellent Vonovia ou Deutsche Wohnen et font un peu figure d'épouvantail. Ce sont de très grandes sociétés propriétaires de plusieurs dizaines de milliers de logements.
Je voudrais vous inviter à la manifestation du 6 avril.
Oui, avec plaisir, c'est très bien.
Elle s'appelle Rolanda, elle a 69 ans et comme cette femme qu'elle rencontre, son loyer augmente depuis le rachat de son immeuble. Sa seule pension de retraite ne lui suffit plus pour vivre, elle a dû reprendre un petit boulot et cela fait déjà 2 ans qu'elle et beaucoup d'autres se battent pour obtenir un référendum pour chasser ses propriétaires.
Le titre de la campagne, c'est Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Exproprier Deutsche Wohnen et compagnie, c'est-à-dire les grandes sociétés qui ont à partir de 3000 logements.
Et au début, Rolanda se souvient que ça n'était pas si simple de convaincre les Berlinois.
Comme si c'était le communisme qui, encore une fois, s'approchait.
L'idée a de quoi surprendre, faire revenir dans le giron municipal une grande partie de ces logements achetés par le privé, mais tout est devenu possible quand ces militants ont découvert un article de la loi fondamentale rédigé après-guerre.
Tiens, il y a cet article, c'est génial. Mais c'est pas possible, on n'a jamais utilisé et on peut tenter une fois.
Il y aura d'autres étapes à franchir, le chemin vers ce référendum s'annonce long, mais la colère est si forte et la mobilisation de plus en plus grande que les responsables politiques locaux se disent désormais ouverts à cette solution.
Ludovic Piétenu. En France, les Gilets jaunes ne lâchent rien sur leurs revendications. Nouveau week-end de mobilisation aujourd'hui, des rassemblements prévus dans tout le pays. 3 jours après la censure de l'article clé de la loi anticasseurs qui prévoyait des interdictions administratives de manifester. À Paris, 2 manifestations sont prévues et déclarées en préfecture. L'une d'entre elles pour dénoncer l'art de l'optimisation fiscale. Avec en tête de cortège une figure du mouvement, Éric Drouet. Elle partira de la place de la République jusqu'au quartier de la Défense. Les rassemblements sont à nouveau interdits, notamment sur les Champs-Élysées. Eux ne manifesteront pas, mais ils restent bien mobilisés pour donner une suite au mouvement. Plus de 700 gilets jaunes réunis à Saint-Nazaire tout le week-end. Des représentants venus de toute la France, ils sont rassemblés à la Maison du Peuple, les anciens locaux de Pôle emploi occupés par les gilets jaunes de la région, le symbole de leur lutte. Une lutte qui ne va pas s'arrêter aux manifestations, assure Céline. Elle est enseignante et gilet jaune de première heure.
Quand on voit le monde qu'on a refusé, l'énergie qui est déployée, la solidarité qui existe, des gens qui viennent non seulement de toute la France mais de Suisse et d'ailleurs, c'est évident que ça va continuer. Je pense qu'une assemblée comme ça, là où on réunit plus de 800 délégués observateurs, ça a de quoi filer des complexes en termes de mobilisation à pas mal de partis politiques. Les revendications sont toujours les mêmes, c'est un changement complet de système qu'on souhaite. C'est plus possible que 9 ou 10 milliardaires sur Terre détiennent autant de richesses. Ici, on ne fait que de la politique, mais au sens propre du terme, sur les lois de la cité et comment on la gouverne. C'est ça ce qui nous intéresse. C'est une gouvernance à l'horizontale, complètement détachée de l'aspect économique, financier. Là, on va voir comment réussir à organiser, à coordonner la lutte, les actions. Et puis, on va essayer de filer le mode d'emploi aux copains pour monter d'autres maisons du peuple comme celle-ci.
Et certains délégués ont par ailleurs émis l'idée de construire des listes d'ici les municipales pour enraciner le mouvement et redevenir, je cite, des citoyens à part entière. En attendant, le gouvernement s'active après le grand débat national. Le Premier ministre fera lundi une restitution de ses 2 mois de consultation, des centaines de milliers de propositions citoyennes. Emmanuel Macron doit annoncer les premières décisions d'ici la mi-avril. France Info, à son tour concernée par des cas de harcèlement et d'agression sexuelle. Information du journal Libération hier soir, près de 2 mois après les révélations sur la Ligue du LOL. Le journal évoque le licenciement pour faute grave de l'un des journalistes du site et la mise à pied de 2 responsables. Des révélations qui poussent la direction de France Télévisions à reprendre et à poursuivre son enquête. Steven Goyer, bonjour.
Bonjour Audrey.
Le journaliste licencié s'est vu reprocher un comportement inapproprié envers les femmes, particulièrement les plus précaires de la rédaction.
Et oui, un comportement inapproprié avec plusieurs stagiaires et apprentis journalistes. D'après Libération, fin février dernier, Nicolas E, 34 ans, apprend qu'un journal enquête sur son cas et sur les accusations d'agression sexuelle dont il fait l'objet. Il décide d'en informer sa responsable et reconnaît lui-même avoir franchi la ligne jaune. Le journal L'Express, de son côté, a recueilli le témoignage d'une jeune apprentie qui explique être allée boire un verre avec lui. « Je devais prendre un train pour rentrer, il insistait encore pour que je boive, j'ai fini par rater le dernier train. » Fin de citation. La jeune femme accepte d'être hébergée pour la nuit dans l'appartement de Nicolas E. « Il a dû me demander des dizaines de fois si on pouvait coucher ensemble, il a essayé plusieurs fois de m'embrasser, à chaque fois je l'ai repoussé », poursuit-elle. Et elle n'est pas la seule concernée d'après l'hebdomadaire, puisqu'après prise de contact avec d'autres précaires, l'une d'entre elles explique avoir vécu la même situation avec le même journaliste. Comportement qui s'ajoute à un climat assez délétère pour ces jeunes femmes à la rédaction numérique de France Info. Pour les 2 responsables mis à pied, ces stagiaires étaient même devenus, je cite, les petites meufs de la rédaction. L'un des journalistes interrogés explique notamment à Libération qu'en 2 ans, il n'y avait pratiquement pas eu de stagiaires hommes à la rédaction et que les stagiaires femmes venaient, je cite, toujours des écoles dans lesquelles ils enseignent et sont souvent très mignonnes. Fermez les guillemets.
Merci Steven. Et l'école de journalisme de Sciences Po a de son côté annoncé sur Facebook tout à l'heure qu'une enquête interne serait ouverte lundi sur ce dossier.
La bulle économique, Marie Viennot.
La bulle éco revient aujourd'hui sur les chiffres de l'OMC qui confirment un ralentissement du commerce mondial. On parle maintenant de globalisation.
The fact that we don't have great news today should surprise no one.
Roberto Azevedo, le directeur de l'OMC, présente les chiffres du commerce mondial. Les nouvelles ne sont pas bonnes et cela ne surprendra personne, dit-il. Ambiance morose et pourtant il n'y a pas de baisse du commerce mondial. En 2018, les échanges mondiaux ont augmenté de 3%, moins que prévu mais 3% quand même. L'an prochain, ce sera 2,6%, moins que l'année d'avant mais toujours en hausse. Alors pourquoi dramatiser? On compare souvent la période actuelle aux années 30, notamment pour le retour des idées protectionnistes. Mais Donald Trump a beau avoir imposé des tarifs douaniers en 2018, les Européens et les Chinois avoir riposté, les échanges mondiaux continuent bel et bien d'augmenter. Alors qu'entre 1929 et 1931, ils avaient été divisés par 2. Faut-il s'inquiéter de ce ralentissement de la mondialisation que certains nomment déjà slowbalisation, de slow, lent et globalisation? Ou faut-il s'en réjouir? Bien sûr, les avis divergent. Ce qui est sûr, c'est que ce phénomène n'a pas commencé avec Donald Trump, mais avec la crise de 2008. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est moins un ralentissement du commerce mondial qu'un retour à la normale, explique Sébastien Jean, le directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Entre 1993 et 2008, la libéralisation du commerce est allée de pair avec l'attrait des entreprises occidentales pour les pays émergents, aussi bien comme marché que comme lieu de production. En 2001, la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce, la grande division internationale du travail s'est alors mise en place. Les entreprises ont fragmenté puis mondialisé leur chaîne de production si bien que jusqu'en 2008, le commerce mondial augmentait certaines années 3 fois plus vite que la richesse mondiale. C'est cette période qui est révolue. Mais le monde est loin de se fermer. En 1993, les exportations représentaient 18% du PIB mondial. En 2008, le pic en était à 30%. Aujourd'hui, 28%. Il n'y a donc pas vraiment protectionnisme en la demeure. Pas de marche arrière, pas de démondialisation en marche. Le ralentissement du commerce mondial n'est pas non plus un signe de relocalisation. Ça et là, des entreprises rapatrient leur production, mais les entreprises cherchent globalement toujours à réduire leurs coûts en fabriquant là où c'est moins cher, moins encadré, moins écologique. En termes économiques, on parle de chaîne de valeur globale et elle ne se contracte pas, confirme le directeur de l'OMC.
All the studies that we have conducted, they don't show that global value change.
Le processus de délocalisation, d'outsourcing comme on dit dans les entreprises, arrive donc à maturité. tout devient plus lent, réfléchi, hésitant aussi. Donald Trump accentue ce phénomène de ralentissement du commerce mondial, cette globalisation, mais il n'en est pas à l'origine. C'est un analyste néerlandais qui a trouvé ce terme de globalisation. L'hebdomadaire britannique The Economist lui a consacré sa une fin janvier et les Québécois ont traduit mondialisation, mondialisation molle en gros, mais mondialisation toujours. Car un retour en arrière semble peu probable. Les prix des transports continuent de baisser, explique un analyste. Avec les crypto-monnaies, on peut faciliter les échanges commerciaux car on sécurise les transactions plus simplement. Tout cela ne va donc pas dans le sens d'une démondialisation. Sauf catastrophe imprévue ou conflit commercial généralisé. Or, l'Organisation mondiale du commerce a imaginé ce scénario dans son rapport. Si tous les pays imposaient des tarifs douaniers, le PIB mondial chuterait de 2% et le commerce mondial de 17%, soit autant qu'en 2009 après la crise financière. Autrement dit, un protectionnisme débridé, à supposer qu'il soit sans guerre, aurait les mêmes conséquences qu'une dérégulation financière débridée. Ce qui n'est pas à souhaiter, mais au moins peut-être à méditer.
Le temps aujourd'hui, pluvieux en Bretagne et en Normandie, des pluies également vers la Méditerranée. Quelques éclaircies en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, les maximales entre 15 et 20 degrés.